pouvez manquer.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi!
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie.
Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme! Au secours!
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans ce Restons Courtois du jeudi, ce Restons Courtois de Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Valentin.
Bonsoir Marc.
Et Étienne Darjac, éditorialiste dont la voix vous est familière. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Marc, bonsoir Valentin.
Étienne Darjac est en pleine lecture et il a bien raison de ce magnifique sommaire de Valeurs Actuelles, un très bon dossier sur l'inquiétant monsieur Pigasse, ce banquier d'affaires qui... à la tête de Radio Nova, livre un combat culturel contre l'extrême droite et qui a pour lui-même des ambitions présidentielles. Vous apprendrez notamment que ces ambitions présidentielles de Mathieu Pigasse ne sont pas neuves, qu'elles datent en réalité de 2016 et qu'il s'était fait damer le pion à l'époque par un certain Emmanuel Macron. Peut-être qu'on y reviendra pendant l'émission, mais Tuguel Denis vous a déjà présenté ce sommaire en début de semaine. En tout cas, le sommaire de cette émission est extrêmement riche, chers auditeurs, puisque nous recevrons à 17h45, après un temps de débat, l'essayiste Rodolphe Thiard, avec qui nous reviendrons notamment sur le premier rassemblement de campagne de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Denis, rassemblement de campagne où votre serviteur était. Donc on aura l'occasion de confronter nos points de vue et avec Rodolphe Thiard et avec les différents invités de ce plateau. À 18h05, nous retrouverons Nicolas Boutin, le chef du service VA Région, avec qui nous reviendrons sur les premières mesures des nouveaux maires Rassemblement National, des mesures qui sont prises à l'échelle locale, mais qui créent des polémiques nationales. Alors on reviendra sur ces mesures qui ont créé la polémique et le débat en France. À 18h30, nous recevrons Christine Goguet, journaliste et auteure, qui publie « Après les grands hommes et Dieu, les grands hommes et le diable » aux éditions du Rocher. Nous nous intéresserons avec elle sur la face cachée des grands hommes, la face sombre, l'envers sombre du décor que sont ces grandes personnalités. Alors cela va de Che Guevara à Arthur Rimbaud, en passant par Jean-Paul Sartre, Philippe Pétain, Victor Hugo, je crois, Pablo Neruda, Gandhi, François Mitterrand, enfin bref, des personnalités que vous adorez aimer ou que vous adorez détester. En tout cas, on reviendra là-dessus avec Christine Goguet. À 19h, nous recevrons l'avocat Gilbert Collard, avec qui nous reviendrons sur la terrible affaire Liana, cette jeune fille de 11 ans dont le corps a été retrouvé. Et on sait que le principal suspect est aujourd'hui écroué. On reviendra bien évidemment sur cette affaire et sur ce que ça raconte de l'état de la justice. Y a-t-il une responsabilité des magistrats? Y a-t-il une responsabilité politique? Est-ce que le manque de moyens de la justice est le seul argument à avancer? On y reviendra bien évidemment. Évidemment, encore une fois, cette émission est la vôtre. Vous pouvez réagir par courriel à l'adresse courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. ou par téléphone au 01 46 51 00 85. 5 minutes d'introduction, je pense que c'est mon record au cours de cette émission. Je vois Étienne Darjac hausser les sourcils. Étienne Darjac, tiens, vous qui êtes un petit peu notre responsable ballon rond au sein de cette émission. La Coupe du Monde de balle au pied va se tenir, va commencer demain soir, bien évidemment. Le Mexique qui ouvre le bal contre l'Afrique du Sud. On va quand même parler un peu du sport avant de parler des polémiques. Étienne Darjac, est-ce que vous allez suivre ça avec une grande attention?
Écoutez, je sais pas encore tout à fait. J'ai évidemment été fan de foot pendant toute ma jeunesse. Donc les Coupes du Monde ont toujours été pour moi des moments importants que j'attendais avec impatience. Je dois avouer que celle-là m'a pris un peu par surprise. Je l'ai pas vu arriver. Sans doute est-ce que parce que je suis maintenant un homme responsable.
J'allais dire vous êtes
adulte, avec un travail. Non, il faut dire que j'ai peut-être un peu plus de mal à apprécier cette équipe de France il y a quelques années. En tout cas, je sais que le virus de la Coupe du Monde finit toujours par attraper les gens. J'étais tout aussi dubitatif en 2022. Vous vous rappelez, c'était l'hiver en plus, pas Coupe du Monde au Qatar. Finalement, j'avais fini évidemment par voir tous les matchs. Il faut dire qu'à l'époque j'étais fonctionnaire dans une mairie, donc j'avais le temps.
On ne dira pas le nom de la mairie, non, mais c'était sûr. Pas la mairie la plus tranquille de France.
Non, c'est vrai. Je vais raconter ça un jour.
Oui, parce que quand le temps de la prescription sera passé, très belle bande annonce en tout cas de curriculum vitae.
En tout cas, je vais peut-être pas regarder un match comme Afrique du Sud Haïti en tout cas, ça c'est sûr.
Oui, parce que alors c'est la particularité de cette Coupe du Monde de foot de balle au pied, pardon, c'est que c'est la première fois qu'il y a autant d'équipes qualifiées.
48 équipes.
Alors il y a 11 équipes du continent africain par exemple, c'est évidemment un record pour eux, ce qui veut dire que cette Coupe du Monde est particulièrement suivie dans ce continent. Il y a des équipes qui sont des grandes habituées de cette compétition, enfin la France, l'Allemagne, j'allais dire l'Italie, non. Toujours pas, l'Espagne, les Pays-Bas, le Brésil, mais aussi des nations dont ça va être la première participation. Vous avez parlé d'Haïti, on peut parler de Curaçao.
Curaçao, la plus petite nation de ce mondial.
Absolument, donc ça promet des confrontations assez absurdes. Et moi j'avoue, il y a toujours un petit peu de poésie, je trouve, dans cette Coupe du Monde, puisqu'on voit s'affronter les équipes et des peuples qui n'auraient jamais dû se rencontrer.
Oui, tout à fait.
En fait, dans la vraie vie. Et parfois, des matchs à haut enjeu politique. Alors, vous n'étiez peut-être même pas né, Étienne Darjac, mais en 98, une rencontre États-Unis-Iran. Une rencontre États-Unis-Iran en pleine guerre du Golfe, guerre Iran-Irak, etc., qui avait créé un peu une polémique. Et d'autant que la Coupe du Monde était en France et les questions de sécurité étaient extrêmement prégnantes. Valentin Gore, je sais que la balle au pied n'est pas votre sport favori.
Non, certes non. Mais en fait, je suis intéressé par ce que vous dites en parlant de ces matchs. Moi, j'ai un souvenir d'une émission sur le match RFA-RDA à l'époque, qui est là aussi. Donc c'est vrai que le sport a toujours un rôle géopolitique important, surtout le football. Vous parliez des pays d'Afrique. Il est arrivé, dit-on, je ne sais pas si c'est vrai, qu'à l'époque des grandes indépendances africaines, parfois les pays s'inscrivaient d'abord à la FIFA avant d'aller signer aux Nations Unies. Mais je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'on raconte.
Mais c'est possible. Hein.
C'est possible, parce qu'évidemment, surtout en Afrique, ça a un rôle très important. Moi, je ne ferai pas de pronostic, parce que moi non plus, je n'ai pas vu venir cette Coupe du Monde, à dire vrai, jusqu'à il y a 3-4 jours.
Je n'ai pas vu les précédentes non
voilà.
plus.
Si, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un virus. Moi, je me souviens d'avoir vu, même moi qui n'aime pas la balle au pied ou le football, effectivement.
Alors, on peut dire football, je pense, de cette finale
France-Argentine, si je ne m'abuse, c'est bien ça. Ouais, c'était la dernière fois. Et qui était palpitante. Décevante à la fin. Palpitante.
116e minute, poteau de Colomani.
Il ne s'en est absolument pas remis.
Il y a quand même quelque chose qui est particulier dans cette Coupe du Monde, c'est le contexte géopolitique, on en a parlé. On a Donald Trump qui a aujourd'hui même encore annoncé une nouvelle fois qu'il allait déchaîner les enfers sur l'Iran. Alors vous me direz, c'est déjà la 17e fois cette année.
Et c'était pas footballistiquement parlant d'ailleurs. Et les États-Unis et l'Iran jouent cette Coupe du Monde.
Les joueurs iraniens sont arrivés ce matin par avion aux États-Unis.
Est-ce qu'ils ont passé les barrages? Parce que polémique là aussi.
Ils ont passé la douane, mais ils abordaient tous sur leur blazer. Un pins en hommage, alors j'ai oublié le nombre, je crois que c'est 68 ou 168, écolières, je crois, qui ont été tuées dans un bombardement américain. Ouais. Et donc, ils avaient tous sur leur blazer un petit pins avec le nombre de victimes. Donc, ça annonce des rencontres tendues.
Figurez-vous que j'en parlais au téléphone pas plus tard qu'hier avec Jérémy Bouy, que nos auditeurs connaissent.
Notre ami Jérémy.
Il vient très régulièrement dans cette émission. Jérémy Bouy, qui est agent de joueur parmi les consultants internationaux
qui
parmi
le vrai,
ses nombreuses
qui est le vrai
activités.
Expert football. Moi, je ne suis qu'un escroc.
Absolument. N'allons pas jusque-là, mais... Jérémy Bouy me racontait justement qu'il y avait eu une grande polémique suite à l'arrivée de cette équipe iranienne, puisque alors les joueurs sont passés, tout l'encadrement, les nutritionnistes, les médecins, etc., qui constituent un petit peu l'aéropage des équipes. Par contre, en revanche, se sont vus refuser d'entrer sur le territoire. Et il y a un arbitre de nationalité somalienne, il me semble, qui était en plus sacré meilleur arbitre d'Afrique.
Et premier arbitre somalien de l'histoire.
Ouais, exactement. Qui a été interdit de territoire aux États-Unis et les pouvoirs publics américains ont invoqué des liens troubles avec des organisations terroristes. Et on a vu cette image absolument incroyable de joueurs, il me semble, du Sénégal fouillés par les forces de police américaines. Alors, c'est vrai qu'il y a une ambiance... On sait que le sport a plani tout, il a plani les tensions, mais là, visiblement, on assiste quand même à une Coupe du Monde qui va se dérouler en plus sur 3 pays. Oui. On va assister à une Coupe du Monde un petit peu sous tension.
3 pays qui s'entendent peu, par ailleurs.
Ils s'entendent de moins en moins.
Le Canada et les États-Unis, c'est un sujet très compliqué. Le Mexique et les États-Unis, je vous en parle pas. Elle est assez absurde, cette Coupe du Monde. On pourrait en parler des heures, mais Il y a un personnage central.
Oui, non, okay,
oui, on va s'arrêter très vite, ne vous inquiétez pas.
Déjà, ils sont patients, mais, on sent que c'est pas leur sujet préféré.
Il faut juste
là.
Glisser un mot sur Gianni Infantino, qui est le président de la FIFA, qui est très probablement, je prends pas de risque en le disant, une des plus grandes crapules que cette terre ait portée depuis
un
moment.
Vous êtes maître de vos propos, Étienne Bergeac.
Bien sûr. Et qui, il faut le dire, ne s'illustre pas de la façon la plus honorable dans les choix des Coupes du Monde récentes, entre la Russie, le Qatar et les États-Unis aujourd'hui. Pas dire qu'il a pas eu la main légère, cet homme-là.
C'est vrai qu'on n'est pas sur des nations neutres.
Il est particulièrement critiqué pour sa proximité proche de la servilité, il faut le dire, avec Donald Trump.
Attendez, peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une Coupe du Monde 2030 en Iran, ou, on ne sait jamais.
Ça ne manquerait pas de sel, en tout cas.
Valentin Gore, pour conclure sur ce sujet. Alors juste, si je voulais vous faire réagir, Valentin, sur ce sujet, puisque, donc on l'a dit, il y a 10 équipes africaines. Les forces de sécurité françaises ont établi une liste, d'ailleurs, de rencontres à risque. Et dans cette liste, évidemment, il y a les matchs de l'équipe de France, et évidemment, donc plusieurs équipes africaines. En tête de liste, l'Algérie, mais puisqu'on rappelle qu'il y a aussi le Maroc, la Tunisie, la Turquie, enfin des nations... très passionné sur le plan footballistique et qui pourrait causer certains troubles dans différentes villes de France. D'ailleurs, les forces de l'ordre se plaignent d'absence un petit peu. Ils n'ont pas l'impression d'avoir reçu des consignes très très claires vis-à-vis de cela, d'autant que des matchs vont se jouer comme avec décalage horaire oblige à 1h, 3h du matin, enfin bref, à des heures peu habituelles. Est-ce que cela va créer est-ce qu'il faut s'attendre à des catastrophes, en fait, tout simplement.
Je ne sais pas, des catastrophes, des tensions, ça, certainement, des catastrophes, je n'espère pas, mais effectivement, on ne sait pas très bien. Ce qui me semble intéressant, et je regarde ça de loin encore une fois, mais j'ai l'impression que jusqu'à il y a quelques années, la Coupe du Monde, c'était un peu, c'est d'ailleurs ce qu'on disait, mais parfois pour critiquer le football, on disait que c'était le dernier moment de communion où tout le monde se sentait français ou ceci, avec des limites, certes. Mais on voit bien que ce n'est plus le cas, puisque maintenant, dans les banlieues, chacun supporte plutôt l'équipe du pays d'origine, même quand on est français, parfois depuis 2 ou 3 générations sur la carte d'identité, et il n'y a plus cet effet de communion, même très léger ou passager, qui pouvait exister, ou beaucoup moins en tout cas.
Et on accueille sur le plateau Rodolphe Carr. Rodolphe Carr, vous êtes journaliste, essayiste, vous êtes notamment l'auteur d'une biographie politique consacrée à Jean-Luc Mélenchon. On va revenir bien évidemment sur le meeting de Saint-Denis de Jean-Luc Mélenchon. Petite question quand même un petit peu football. Est-ce que vous allez suivre cette Coupe du Monde et qu'est-ce que vous en attendez?
Oui, j'ai été pratiquant pendant de longues années quand j'étais plus jeune, donc je vais regarder ça avec attention. Et peut-être ce qui m'a intéressé aussi, c'est la manière de voir le spectacle des Américains. Il y a eu une présentation des stats qui sont vraiment à un niveau de perfectionnement par rapport à ceux d'Europe assez avancé, peut-être pas avec ceux d'Angleterre. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant le reportage, ils montraient qu'on trouve des boîtes de nuit, qu'on trouve des bars, un certain nombre de restaurants. Et parfois, le présentateur disait justement, américain, que les... personne restait au bar et regardait le match dans le stade, à la télé, dans le stade. Donc c'était intéressant de voir un peu.
J'ai jamais entendu quelque chose de plus américain.
Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, suffit de voir comment sont construits les sports américains, que ce soit le football américain, justement, le baseball ou même le basket, où il y a toujours des cartons, etc. De nombreuses pauses pour justement aller se sustenter. Donc on voit la manière de voir le spectacle. Donc oui, je vais suivre ça de loin, même s'il y a tous les enjeux politiques, et notamment Mélenchon, qui a fait un joli coup de com' avec la sortie des maillots à l'effigie de la France Insoumise, mais des maillots bleu-blanc-rouge.
Avec son maillot, effectivement. Alors justement, Rodolphe Carr, dimanche dernier, Jean-Luc Mélenchon tenait un meeting... Alors c'est très amusant parce que la lecture du jour, alors j'étais justement à ce meeting et juste avant j'étais à la messe à Saint-Denis, à la basilique des rois, pour avoir un petit peu justement le deux salles des ambiances, et c'était très réussi alors qu'on entendait à l'église « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert ». Les paroissiens, effectivement, de la messe de 10h ce dimanche 7 juin écoutent religieusement la lecture du jour lue par un jeune premier communion tiré à 4 épingles. Dans la basilique des rois, retentissent les paroles du Deutéronome à ses pieds. Les forces insoumises s'affairent à la préparation du premier meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc j'y étais, chers auditeurs, au meeting, certes, mais juste avant, donc à cette messe. C'est dans cette magnifique basilique, d'ailleurs construite pour la gloire de Dieu et consacrée à l'évêque Saint-Denis. L'attentif lecteur des encycliques papales qu'est Jean-Luc Mélenchon n'a peut-être pas ressuscité son passé d'enfant de cœur pour méditer cette lecture. Il y a fort à parier qu'elle aurait pourtant résonné dans l'esprit de l'ancien paria des gauches, une longue marche dans le désert quelque part, du référendum de 2005 à cette élection présidentielle de 2027. Jean-Luc Mélenchon, 74 ans, peut mesurer le chemin parcouru. Il est passé du statut de gauche minoritaire qui claque la porte d'un PS coupable de se renier à bourreau de ce même PS 20 ans plus tard. Mais à quel prix? C'est un peu la question que j'ai envie de vous poser, Rodolphe Carr. Démonstration de force, très clairement. Alors, 26 000, peut-être pas, pour y avoir été, je leur accorde au moins 20 000 personnes, honnêtement, parce que c'était la mobilisation était impressionnante, et surtout à un an de l'élection présidentielle, alors que le Parti Socialiste s'interroge sur la nécessité d'une primaire pour la primaire.
Double et, primaire, je crois.
On fait des primaires pour savoir s'il y a une primaire. Enfin bon, bref, on sent que les types, ils sont pas clairs avec eux-mêmes, et pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon, démonstration de force, le cap est clair, le candidat est connu, le programme est complètement assumé, les violences politiques sont assumées elles aussi, donc finalement, en avant, zoom, comme il dit.
Bah, vous avez tout dit, c'est vraiment une démonstration, je pense que tout le monde a pu le reconnaître. Et après, ce qui était intéressant aussi, c'était de voir les symboles mis en avant. Donc vous l'avez mentionné, il y a cette volonté de s'inscrire aussi avec la basilique en fond, et puis la mairie juste à côté.
Le roi mort et le peuple vivant, voilà. Comme disait Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis.
Exactement, première indication, c'est la sortie à nouveau des drapeaux français en masse. Lors des derniers meetings, il y en avait quelques-uns, mais ils étaient plutôt épars, justement un peu noyés dans les drapeaux palestiniens ou dans les drapeaux même antifascistes, etc. Là, ils sont mis en avant. Donc on voit un peu, quelque part, une volonté peut-être de revenir un peu à la présidentielle de 2017. Il y a eu, ce qu'on vient d'évoquer, ces maillots sortis pour justement le mondial.
Floquet Mélenchon, oui, on le rappelle.
Floquet Mélenchon, exactement, avec le 27, le numéro 27 pour 2027. Il y a cette sortie en masse des drapeaux. Et même dernièrement, là, je sais qu'il a beaucoup communiqué sur la nationalisation d'ArcelorMittal.
Absolument.
Et aussi, il a dénoncé même l'échec franco-allemand du SCAF, en mentionnant, justement, en prenant la défense de Dassault. Il a toujours eu des liens avec Dassault, notamment Dassault père, lorsqu'il était sénateur.
Sur le plan économique, il est assez souverainiste de toute
Bien
façon,
sûr. Jean-Luc Mélenchon. Et même sur le côté militariste, ou en tout cas le côté militaire, il n'a jamais basculé dans l'antimilitarisme
Il n'est pas écolo, quoi.
Voilà, un peu gauchiste, justement, qu'on peut retrouver dans d'autres structures trotskistes que lui, il a pu connaître, notamment à l'Organisation communiste internationaliste. Et comme vous l'avez dit aussi, un des enjeux, ça a été le fait de dire les planètes sont alignées, la primaire est déjà finie, c'est nous qui sommes les représentants de la gauche. Donc il y a une volonté d'incapacité justement une autre gauche d'émerger, parce que un des enjeux aussi de Jean-Luc Mélenchon pour accéder au second tour, c'est d'être le candidat du vote utile, notamment pour les écologistes et les communistes. Donc là, pour l'instant, le bloc central court après le candidat social-démocrate à faire émerger pour retenir encore ce vote, pour pas qu'il aille trop vite chez Jean-Luc Mélenchon. Et là, on voit justement la panique. Il y a cette double primaire complètement ridicule. Je crois que Hollande a lancé son micro-parti Les Jeunes avec Hollande.
Oui.
Et sais que Marc, c'est quelque chose qu'on a en commun.
Depuis Saint-Denis, je vais vous dire, j'ai peut-être un petit peu changé d'avis. C'est un peu la question que j'ai envie de vous poser, Étienne Darjac. Alors, Rodolphe Thiers, vous l'avez très bien dit, on a une tentative de synthèse entre la campagne présidentielle de 2017 et celle de 2022, en tout cas cette volonté un petit peu dans le même temps presque macronien de ressusciter à la fois l'aspect souverainiste qui a incarné Jean-Luc Mélenchon et ne pas tourner le dos, ne tournant pas le dos au communautarisme. La question, c'est peut-il y arriver? Et surtout la question, du coup, Étienne Darjac, déjà Jean-Luc Mélenchon au second tour, est-ce que pour vous c'est crédible?
Oui, dans la situation actuelle, c'est la seule hypothèse crédible.
Ouais.
La seule chose, Rodolphe a commencé à le dire, la seule chose qui peut empêcher Jean-Luc Mélenchon d'être au second tour, c'est l'émergence d'une alternative à gauche crédible. Alors, je parle pas de la ligne politique, ça peu importe, mais je parle d'une personnalité crédible. Il se trouve qu'à gauche, en ce moment, c'est compliqué d'en trouver. Effectivement, on en a souvent parlé, la seule option qui pourrait incarner quelque chose de solide, c'est François Hollande. Bon, on n'y est pas encore, on est encore très très loin d'une candidature. L'idée est évidemment plaisante pour nous autres passionnés de politique, mais on en est très loin. À côté de Hollande, c'est Raphaël Glucksmann ou je sais pas qui d'autre, ou Bernard Cazeneuve.
Ruffin a fait son lancement à Lyon, et là, quand on fait la différence avec le meeting de lancement de Jean-Luc Mélenchon,
Ruffin, sa campagne est morte.
Exactement, oui.
Donc, sans alternative à gauche, Jean-Luc Mélenchon sera évidemment au second tour. Cela étant, j'ai suivi un peu de loin, grâce à vos tweets, même s'il y en a eu très peu finalement.
Non, c'est le problème de ces grands rassemblements, c'est que le réseau sature très vite.
J'ai suivi
forfait très cher.
J'ai suivi quand même ce meeting. Évidemment, c'est une démonstration de force, c'est le but d'un meeting de toute façon. Moi, je la nuance un peu quand même. Il est quand même en terrain conquis. Alors, très littéralement conquis tout récemment au municipal, évidemment, mais je veux dire, c'est qu'il est sur un terrain extrêmement favorable, où par ailleurs, il y a deux ou trois mois, il avait déjà rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes pour une marche contre le racisme, au même endroit. Donc, il faut nuancer un tout petit peu. Évidemment, c'est une démonstration de force. Maintenant, il n'a pas non plus fait ça. Il n'a pas pris énormément de risques. C'est un bon début de campagne. Jean-Luc Mélenchon a toujours fait des campagnes efficaces. Mmh. Il a toujours été entouré de bons communicants. Oui, il faut rappeler que la présidentielle, c'est dans un an, que personne n'est lancé pour l'instant. C'est beaucoup trop tôt pour dire qu'il est bien parti. C'est un bon début, si vous voulez, mais pour avoir suivi de près la campagne d'Éric Zemmour en 2022, les campagnes qui démarrent longtemps en avance et qui sont très efficaces avec une très bonne communication, ça n'arrive pas toujours au bout.
Et on va parler de la question du plafond de verre, bien évidemment, mais avant cela, Valentin Gore, est-ce que justement cette tentative de synthèse que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est assez paradoxal, parce que d'un côté, il convoque l'histoire systématiquement, enfin, il se met vraiment dans la lignée des révolutionnaires. C'est d'ailleurs l'avantage de se placer sous le patronage de la violence révolutionnaire de Robespierre, puisque ça dédouane un peu des violences à venir, entre guillemets, mais est-ce que à la fois convoiter l'histoire et à la fois parier sur presque une amnésie collective de tout ce qu'il a pu dire ces deux dernières années, parce qu'il y a quand même eu le 7 octobre, il y a eu la mort de Quentin, il y a eu les émeutes. Est-ce que, pour vous, Jean-Luc Mélenchon peut faire oublier tout cela, alors à ses partisans sans aucun doute, mais à l'autre partie de la gauche, en fait?
Je pense que d'une certaine façon, oui, parce que vous avez eu en France un président socialiste qui s'est appelé François Mitterrand, qui a réussi à faire oublier beaucoup de choses.
Absolument, c'est pas faux.
Nous sommes dans des séquences qui passent extrêmement vite aujourd'hui, et Jean-Luc Mélenchon sait très bien faire ça. Je le comparerais quand même pas à Staline, mais il y a un peu ce côté où il y a un côté petit père des peuples, très sympathique, très bon, nous on va faire la paix dans le monde, très souverainiste, vous l'avez dit, même avec des réflexions parfois intéressantes. J'ai vu un tweet de Clémence Guettet à cet égard qui parlait des entreprises françaises qui sont passées sous pavillon américain depuis 2017. C'était assez intéressant à entendre.
Clémence Guettet, vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée insoumise.
Et puis de l'autre, effectivement, ce communautarisme absolument développé, comme on l'a vu. Donc est-ce que les deux peuvent coexister d'une certaine façon? Oui, parce qu'il y a aussi maintenant, chacun est un peu dans son canal, et c'est ce qu'a fait aussi Macron en 2017, c'est parler un peu aux électeurs de droite, leur dire une chose, aux électeurs de gauche, leur dire autre chose. Donc ça me paraît possible, et je pense qu'il peut non seulement être au second tour, mais il y a peut-être même une hypothèse où il peut même être en tête du premier tour. Mais ça, je dirais que c'est assez osé.
C'est très osé.
Mais
je pense que c'était Rodolphe Thiers, vous voyez, qui allait faire un pari comme ça, parce que Rodolphe a envie de faire vivre son livre déjà. Rodolphe Thiers, je vous laisse rebondir là-dessus.
Bah, peut-être aussi voir la perspective. Il y a la question de la présidentielle et la question aussi des législatives. Il y a aussi un absent ou une absente dans le meeting de Jean-Luc Mélenchon, c'est Marine Le Pen. Il n'en parle absolument pas. Il attaque par contre, bille en tête, Jordan Bardella, parce qu'on perçoit aussi nombreuses prises de position de Jean-Luc Mélenchon d'en finir aussi avec cette tripartition de la vie politique française. Ouais. Ça le dessert. Lui veut revenir à une opposition binaire et duale d'opposition bloc de gauche, bloc de droite. Donc peut-être qu'il a...
C'est ce qu'il avait essayé de mettre en scène avec Éric Zemmour en 2022.
C'est exactement ça. Quand on revient sur le livre d'après-campagne d'Éric Zemmour, d'ailleurs les deux sont plutôt d'accord.
Bah oui, bah, ça les arrangerait énormément tous les deux.
Bah, hein, exactement. Et donc là, on voit en plus le temps long avec vraiment la volonté. Là-dessus, il faut se replonger sur l'histoire du mouvement antifasciste des années 30. Il y a vraiment cette volonté de faire un mouvement de masse, ce que n'est pas encore la France Insoumise, qui est plutôt un parti-mouvement, qui est un peu différent. Elle n'a pas la masse électorale, par exemple, qu'on retrouve dans le Rassemblement National. Mais par contre, je trouve que la France Insoumise a beaucoup plus de prises. On l'a vu, par exemple, avec les prises de contact avec des influenceurs dans le monde de la culture, dans le monde associatif, dans le monde des syndicats, où on sait aussi qu'ils sont très implantés, parce qu'ils ont pris la main sur les derniers mouvements sociaux, notamment avec une lutte avec la CGT et Martinez. Vous vous en souvenez, il y avait des luttes assez âpres pour avoir justement la main sur les mouvements sociaux. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, s'il ne l'emporte pas en 2027, vraiment son objectif c'est de devenir le pôle de résistance à gauche qui est un mouvement un peu, polycentrique, avec d'un côté une grosse inscription dans la société civile, dans la rue, on a vu les liens avec la Jeune Garde. Maintenant, même si la Jeune Garde est soi-disant dissoute,
n'existe plus, voyons.
Voilà, exactement. Et puis dans la politique, il y a vraiment cette volonté de créer un bloc de gauche hégémonique sous le contrôle de la France Insoumise.
Mais là où on voit, effectivement, il y a un point commun avec François Mitterrand, c'est qu'il est le premier depuis Mitterrand à réussir à fédérer la gauche autour de lui. Ça a été l'exploit. Ben, on a vu d'ailleurs qu'au lendemain de son meeting, le député communiste Stéphane Peu était président du groupe communiste à l'Assemblée, du Famélic d'ailleurs désormais groupe communiste à l'Assemblée, était venu presque prêter allégeance directement à Jean-Luc Mélenchon. Mais là où Mitterrand a fédéré les gauches vers la victoire, Mélenchon, là, c'est d'ailleurs l'argument principal de ses opposants à gauche, c'est que là, il pourrait les mener directement dans l'impasse, parce que on en revient à l'éternel paradoxe que je vais répéter une fois de plus, mais si Jean-Luc Mélenchon est peut-être le seul candidat de gauche à pouvoir accéder au second tour, il est aussi, à l'heure actuelle, si on en croit l'intégralité des sondages depuis deux ans, le seul à être certain de perdre face au Rassemblement National. Et c'est d'ailleurs le seul candidat que tous les sondages mettent perdant face au Rassemblement National.
Alors, vous avez tout à fait raison, mais il y a une élection que vous n'avez pas mentionnée quand vous avez mentionné celle de 2022-2017, il y a celle de 2012 aussi. Pourquoi celle de 2012, elle est intéressante? À l'époque, vous vous en souvenez, il y avait eu les attentats en mars, il me semble, aux Aratora avec Mohamed Merah. Et Jean-Luc Mélenchon fait un discours au Prado, donc à Marseille. Mmh. Il aurait pu faire un discours un peu Troisième République, pas forcément en ciblant directement les islamistes, mais en tout cas contre l'obscurantisme religieux, pris au sens large, etc. Et non, il fait une ode à la Méditerranée multiculturelle, qui est son bassin même d'où il vient avec le Maroc. Il parle souvent de que serait la France sans les Arabes, sans les Berbères. Enfin, il prend. Et déjà à l'époque, des analystes socialistes disent que son freinage en fin de campagne vient de là, justement, parce qu'il a perdu à ce moment-là les classes blanches populaires, ou en tout cas une partie des classes blanches populaires. Et d'ailleurs, ce sera confirmé lorsqu'il perd contre Marine Le Pen à Hénin Beaumont ensuite aux législatives. Et donc, on voit aujourd'hui, vous avez tout à fait raison, il s'est cornérisé, il s'est mais ce qui lui a permis aussi de consolider sa base. J'en discutais avec François Coq, un purgé qui était là dès le départ.
Un de ses conseillers de la campagne de 2017.
Exactement. Ouais. Et lui, il m'a dit, Jean-Luc Mélenchon, il a deux options. Soit unir la gauche, un peu sur le modèle de François Mitterrand, soit fédérer le peuple. La fédération du peuple, ça a été plutôt la ligne suivie en 2017. Arrive ensuite Coquerel qui vient souffler à l'oreille de Jean-Luc Mélenchon que les voix qui lui manquent sont dans les banlieues. Et là, on voit, comment dire, une oscillation. Et on voit aujourd'hui qu'il marche un petit peu sur les deux stratégies.
Un pied de chaque côté, oui.
Et d'ailleurs, le mythe antifasciste incarné par Raphaël Arnaud, d'ailleurs le bloc fait autour de Raphaël Arnaud, le palestinisme avec Rima Hassan, Free Palestine. Là, on est plutôt dans une volonté de consolider sa base, mais qui aussi le rend assez, comment dire, négatif vis-à-vis d'une autre partie de l'électorat. Et puis ensuite arrive cette notion de Nouvelle France qu'il ne faut pas non plus caricaturer. Dès qu'on gratte le vernis, on voit très vite arriver derrière les changements démographiques.
Oui, bien sûr,
pas
la créolisation, le grand placement démographique, bien
mais
sûr.
Mais ce n'est pas que ça. Parce que justement, Jean-Luc Mélenchon, au début, parlait plutôt de France créole. Ça aurait pu être son slogan, mais il l'a vite abandonné. Nouvelle France, c'est plus ouvert.
Il parle de créolisation.
Voilà,
c'est
exactement.
Vrai.
Et la Nouvelle France, c'est le changement démographique, oui, mais c'est aussi la libération des femmes.
Oui, le changement de génération, d'ailleurs. Il se planque un peu derrière ça pour le faire passer. Mais effectivement, là où il s'en sert un peu pour cacher l'autre réalité, en tout cas, c'est, pour lui, c'est une réalité qui est aussi légitime que l'autre. Quoi.
Et d'ailleurs, ça reprend un petit peu du Terra Nova sous stéroïdes, avec les laissés pour compte, les femmes célibataires, ouais, et aussi, justement, le fait que, depuis 1958, on est passé d'une population relativement rurale à une population relativement urbaine. Il n'a pas forcément tort, c'est du Henri Mandras dans le texte. Ouais. Donc, on voit que derrière, avec ce concept de Nouvelle-France, il a un concept positif, performatif. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on le met en miroir du Rassemblement National, dans les deux meetings, on dit aujourd'hui, on est chez nous. Donc là aussi, indication identitaire.
Il y aurait une polémique nationale si ça avait été Éric Zemmour,
d'ailleurs. Donc vraiment, ce slogan de la Nouvelle-France, moi, je trouve que c'est vraiment un tour de force de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, on est tous perdants parce qu'on l'a repris. Et Nouvelle-France, en soi, c'est ni positif ni négatif. C'est plutôt, j'ai envie de dire, neutre. Mais par contre, on voit que lui, c'est vraiment une Nouvelle France qui arrive, etc., et qui peut brasser large. Il est très fort là-dessus.
Étienne Darjac, le concept de Nouvelle France, c'est il nous a imposé ses mots et son champ lexical, en fait, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, mais comme il l'a toujours fait, et comme la gauche l'a toujours fait, de manière générale, avec l'opinion publique et particulièrement la sphère médiatique, il n'y a pas grand-chose de plus efficace pour développer de nouveaux concepts qu'un vieux trotskiste. c'est évidemment extrêmement
les
efficace.
Les vieux pour les meilleures confitures, tout ça.
Exactement. C'est très efficace. C'est d'ailleurs tellement efficace qu'on a envie de leur prendre chacun à notre sauce. Hein. On pourrait parfaitement parler d'une nouvelle France qui serait plus dans le... vous parlez d'Éric Zemmour, qui correspondrait à la vision d'Éric Zemmour comme qui pourrait correspondre à la vision de n'importe quel candidat. Donc, c'est un vocable qui est fort, mais qui peut assez rapidement être vidé de tout sens. C'est un peu le problème de tous les concepts de gauche, par ailleurs. Hein. Maintenant, c'est très efficace. C'est très efficace. Je ne sais pas s'il fera toute la campagne sur ce vocabulaire-là. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose de pré-campagne pour chauffer un peu les troupes, pour rassembler un peu tout le monde. Je pense pas qu'il tiendra une présidentielle là-dessus, parce que quand il y aura de vrais débats avec, on l'espère, des personnalités de droite en face un peu solides, et qu'on qui sera que lui ou celui
de Jordan Bardella,
je pense à personne en particulier, ou à tout le monde en particulier si vous préférez,
à tout le monde en général et à personne en particulier.
Exactement. Bon, quand il aura en face de lui des gens un peu consistants et qu'il faudra aller au bout de ce concept de Nouvelle France, je pense qu'il pourrait être assez rapidement mis en difficulté et précisément renvoyé à ce que le reste de l'électorat lui reproche, c'est-à-dire son sectarisme, sa violence. Son dégoût à peine caché hein, pour toute une partie de la France, il l'a encore fait très récemment. Vous avez vu sa saillie sur la France rurale,
qui resterait entre elle. Voilà, ouais.
C'est vraiment, c'est
la formule exacte.
Mais... difficilement faire plus dégoût du peuple français que cette phrase-là. Donc, si vous voulez, oui, bon concept de com. Maintenant, je pense que ça prêterait trop le flanc de la critique dans le cadre d'une vraie campagne présidentielle.
Ouais. Valentin Gore, il y a un autre sujet aussi qui a été observé donc par moi, bien évidemment, parce que j'y étais, mais aussi par les journalistes du Monde, notamment, c'est que c'était tout le paradoxe de ce meeting, c'est qu'il se tenait à Saint-Denis, terre de conquête, à Saint-Denis d'ailleurs, où un des arguments de la France insoumise, c'était de dire enfin Saint-Denis a un maire qui lui ressemble, mais dans le meeting, 80% au bas mot, en tout cas une immense majorité de blancs, sans faire offense aux sciences sociales, on aurait dit un campus de sciences sociales de Paris-Centre, quoi, objectivement. Et elle était où la population de Saint-Denis ? Et justement, cette France créolisée, cette France de l'immigration, cette France qu'il drague, pour le dire ainsi, depuis des années, elle n'était pas là.
Non, oui, elle n'est pas là, parce que cette population-là, déjà, de réussir à la faire voter, ce qu'il a réussi à faire, c'est déjà assez exceptionnel. Parce qu'avant, c'est une population qui ne votait quasiment jamais, éventuellement au municipal, dans des villes communautarisées, comme il existe depuis les années 80 en France. Mais sinon, cette population, elle se tient très à l'écart, en vérité, du débat politique français. Donc non, elle ne vient pas dans les meetings. De toute façon, c'est des gens déjà très engagés politiquement qui vont dans des meetings, surtout dans ceux de Jean-Luc Mélenchon. Mais je suis intéressé par ce que vous disiez, Rodolphe, sur la Nouvelle-France, parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut surtout pas donner le point à Jean-Luc Mélenchon. La Nouvelle-France, d'abord, je voudrais rappeler que c'est le Québec. Hein. C'est pour moi, ça veut dire ça, la Nouvelle-France. Et puis, effectivement, c'est un slogan qui paraît un peu vide de sens. Jean-Luc Mélenchon est un homme très intelligent, mais qui a quand même ses limites, parce que je voyais tout à l'heure une vidéo de lui qui se promenait sur le Pont-Neuf, un peu ancienne, où il racontait absolument n'importe quoi avec ses sbires qui étaient là en disant « Ah, c'est génial, il nous fait une leçon d'histoire de France, on va apprendre des tas de choses. »
Vous voyez, la caserelle, il y a Quasimodo là-haut.
Oui, enfin, voilà, exactement. Puisqu'il a montré la statue d'Henri IV en expliquant que, effectivement, alors en reprenant l'intrigue des rois maudits de Maurice Druon, que j'ai lu il y a longtemps, que j'ai plus tout en tête.
Un livre historique, tout ce qui est le plus sérieux et crédible.
Un formidable livre, un livre vraiment formidable, mais qui est absolument romancé, donc oui, effectivement, voilà. On voit aussi parfois les limites, parce que c'est un hableur aussi, hein, donc il sait parfois se faire
reste un
penser plus intelligent qu'il ne l'est, absolument.
Rodolphe, tiens.
Et d'ailleurs aussi mentionner que sa Nouvelle-France, elle est tout aussi archipélisée que l'actuelle ou l'ancienne aussi.
Oui.
Là, c'est peut-être aussi un axe sur lequel devraient insister peut-être ses opposants politiques, et d'ailleurs, je pense que c'est des choses qu'on va voir aussi apparaître dans ces nouvelles, enfin cette nouvelle ceinture rouge qui est devenue avec des teintes un peu vertes dorénavant.
Rouge carmin, voilà. Rouge carmin et vert. Ouais.
Exactement, c'est qu'on va avoir aussi de la concurrence intracommunautaire. Il y a parfois des concurrences entre les générations 2 ou 3e génération d'immigrés et les générations primo-arrivantes, parce que des fois, elles ne viennent pas des mêmes zones, notamment d'Afrique, parce que pour l'instant, c'est majoritairement une immigration extra-européenne en provenance d'Afrique. Et par exemple, la communauté marocaine et algérienne, il y a quand même un certain nombre de sujets où il y a des oppositions plutôt assez senties.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, Rima Hassan est souvent revenue sur l'exemple qu'elle se prenait une pression de la communauté, de la diaspora marocaine assez forte, parce qu'on sait qu'elle est plutôt pro-régime algérien. Donc là-dessus, il y a peut-être aussi des indications. Et on peut se souvenir aussi des affrontements intracommunautaires à Dijon entre une partie de la communauté tchétchène et aussi une partie de la communauté maghrébine. Donc, c'est peut-être aussi un point sur lequel il faut insister. Et je reviendrai même pas aussi sur l'opposition. islam plutôt conservateur avec les communautés LGBT.
Ouais.
Donc là, on voit que justement, il a besoin d'avoir un peu des mythes mobilisateurs transversaux comme le mythe palestinien qui lui permet un peu de regrouper tout le monde derrière le même drapeau. Lors, on l'a vu par exemple au moment de la Pride des banlieues qui était intéressante là.
Le maire, ou le maire de la Courneuve, n'était, Pride à la Courneuve, le maire Ali Douara... Insoumis n'était pas présent.
Exactement.
Ça s'est vu, d'ailleurs.
Donc là, et là, c'est peut-être un enjeu, peut-être pas pour Mélenchon qui arrive dans l'âge, mais peut-être pour les personnes qui vont le suivre d'origine européenne, etc., etc., bah, de garder un électorat musulman qui, par ses valeurs, est plutôt, en tout cas, penche plutôt vers le conservatisme. Mmh. Et d'ailleurs, par exemple, sur les notions économiques, qui est, à mon avis, beaucoup plus libéral aussi qu'une partie de l'électorat blanc, urbain, assez gauchiste. Donc mais là, c'est un enjeu aussi pour la gauche des années à venir.
On le voit d'ailleurs dans les diasporas algériennes et marocaines, on va dire plutôt CSP+, par exemple, l'hypothèse d'une candidature Villepin les séduit beaucoup plus.
Exactement. Donc là, et c'est peut-être aussi Jean-Luc Mélenchon qui court après une certaine monte. On a souvent parlé du porte-parole, c'est un des enjeux. Et le deuxième enjeu, c'est peut-être ça... un recentrage, on va dire, d'une partie de l'électorat musulman et aussi de ces nombreuses générations et une partie de la bourgeoisie qui aimerait avoir un Macron un peu à la sauce soumission de Houellebecq, quelque part.
Dernière question, Rodolphe Thiers, très rapidement. La candidature de Karim Bouamrane, que certains rêvent comme un objet de détournement, on va dire, du vote justement communautaire. Est-ce que vous y croyez ? Deuxième question, est-ce que pour vous, Jean-Luc Mélenchon est sûr aujourd'hui d'arriver au second tour ? Et est-ce que pour vous, il va forcément être battu par le Rassemblement National ? Trois questions, en fait.
Le problème, pour le coup, de la présidentielle, c'est qu'il faut quand même être une figure relativement connue de l'ensemble des Français.
Ouais.
Que ce soit de manière positive ou négative, Karim Bouamrane, c'est un inconnu complet. Excusez-moi, on sort du cercle parisien et du cercle politique, personne ne connaît Karim, mais ça c'est quand même une indication.
Oui, et il n'aurait jamais fait parrainage.
Ouais, exactement. Oui. Et d'ailleurs, vous avez fait un très beau dossier sur Mathieu Pigas dans Valeurs Actuelles. Mais Mathieu Pigas, c'est la même chose en réalité.
Ouais.
Il fanfaronne, il a une radio qui est quand même dans la bataille culturelle à venir, quelque chose qui est vraiment pas à effacer et qui est vraiment important. Et d'ailleurs, il veut avoir, je crois, sa propre chaîne de télé en passant par le canal régional. Là aussi, c'est intéressant parce qu'il a compris quelque chose, Mathieu Pigas. Il disait justement, si on a une chaîne de télé, derrière, ça nous permet de faire de la communication numérique. Et il sait à quel point c'est la communication numérique qui est peut-être plus important que le médium principal. Mais là, on en revient à notre débat du début de l'émission. La gauche aujourd'hui est orpheline d'une figure qui peut incarner cette résistance. Alors, il y a peut-être Villepin, il faut qu'il ait encore ses signatures. Donc là, ils sont vraiment, j'ai envie de dire, un peu aux abois.
Ouais. Très bien, merci beaucoup Rodolphe Thiers, auteur d'une biographie politique de Jean-Luc Mélenchon. Restez avec nous, chers auditeurs, vous êtes bien dans l'émission Restons Courtois, diffusée sur les ondes de Radio Courtoisie. Restons Courtois, animé comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. On se retrouve dans quelques instants avec Nicolas Boutin pour parler justement de ces décisions locales de certains maires RN qui créent des polémiques nationales. Restez avec nous, mais tout d'abord un tout petit message de votre radio.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et bonsoir à nouveau, chers auditeurs, de retour dans l'émission Restons Courtois, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles sur les ondes de Radio Courtoisie. Je suis en plateau avec Étienne Darjac, éditorialiste, Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles, et nous accueillons Nicolas Boutin. Nicolas Boutin, chef du service VA Région. Nicolas Boutin, depuis plusieurs semaines, l'actualité est ponctuée par des polémiques très très locales. On parle d'un maire qui supprime le potager municipal, qui va supprimer une micro-subvention de 3000 euros à une association. On parle d'un maire qui déprogramme une pièce de théâtre. En bref, des décisions très local, très presque anecdotique, et cela crée à chaque fois des polémiques nationales. Vous me voyez venir, chers auditeurs, avec mes gros sabots. Bien évidemment, ces maires sont issus du Rassemblement National. On va commencer par la première polémique. Nicolas Boutin, elle a été lancée par Hervé de Lépineau, maire de Carpentras, qui décide d'un coup de supprimer la subvention du planning familial. Alors, on précise que la subvention du planning familial du Vaucluse, planning familial qui est basé à Avignon, donc déjà pas à Carpentras, et qui ne s'élève qu'à 3 000 euros, une somme qui ne met pas en danger cette association, mais néanmoins polémique. Est-ce que justement c'est cette symbolique que recherchent les maires RN?
Bonsoir Marc. Bah, effectivement, il y a une sorte de retour de bâton après des années et des années d'un tissu associatif qui s'était mis en place et qui était très subventionné par les municipalités, par les départements, par les régions, par l'État, et qui se sont retrouvés, pour certains, à faire de la politique. Et c'est ce que la ligne en fait commune des maires du RN actuellement, notamment ceux qui sont pris dans ce genre de polémique, en tout cas qui ont pris ces décisions, c'est de dire ces associations-là font de la politique, donc l'ensemble des contribuables n'ont pas à payer pour le fonctionnement d'une association politique. C'est le cas, vous l'avez dit, à Carpentras, avec Hervé de Lépineau qui a pris cette décision-là. Alors, vous avez tout à fait raison de souligner que le planning familial du Vaucluse n'est pas basé à Carpentras, ne va pas disparaître pour autant, mais il ne voulait pas en tout cas, le planning familial avait pris position contre le Rassemblement National lors d'élections. Donc,
au niveau national, effectivement, le planning familial a appelé à voter contre le Rassemblement National dans toutes les circonscriptions possibles et imaginables.
Et on les retrouve très régulièrement à la manœuvre, dans des manifestations, dans des communiqués, dans des pétitions, des tribunes contre le Rassemblement National. Et donc, c'est un petit peu comme la Ligue des droits de l'homme à Carcassonne, avec le nouveau maire également, Christophe Barthès, l'ancien député, qui a pris la décision de leur retirer la subvention et surtout l'accès aux locaux qu'ils partageaient, des locaux de la mairie. Parce que la Ligue des droits de l'homme est devenue, selon lui, une association politique. Et il est vrai qu'on les retrouve dans toutes les manifestations.
Dans l'absolu, il n'est pas totalement faux, d'ailleurs.
Oui, enfin, voilà. l'a toujours été, surtout.
c'est exactement aussi la même chose pour la CGT à Carcassonne, toujours, où vous avez peut-être revu, chers auditeurs, la vidéo du maire qui descend de sa mairie pour apporter des cartons aux manifestants
de
la
CGT.
Quel plaisir.
Et du scotch pour pouvoir leur permettre de déménager et de quitter, encore une fois, les locaux municipaux. En fait, c'est un petit peu cette politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un Rassemblement National, on va dire, des villes contre un Rassemblement National à l'échelle présidentielle, qui l'un ne va pas contre l'autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas Hervé de Lépineau qui nous a dit je suis militant contre l'avortement, je supprime les subventions au planning familial. Ça n'est pas du tout ça. C'est aujourd'hui de dire qu'on ne peut pas financer des associations politiques avec de l'argent public. Et tout ça s'inscrit quand même dans un contexte quand même de baisse de autour de 5 milliards d'euros pour dotation pour les collectivités locales. Donc tout le monde doit faire des efforts, tout le monde doit choisir où faire ses efforts. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte de toutes ces petites lignes budgétaires de subventions qui ont été données parfois à des amis, à des effectivement des associations qui cachaient une activité cachée ou pas d'ailleurs, mais en tout cas avec des activités politiques. Et qui était payé par la majorité des personnes qui ne se retrouvent pas dans ces associations.
Oui. Alors, on va revenir très rapidement sur la nouvelle polémique, mais avant, Valentin Gore, ces petits débats, ces petites polémiques. Alors, c'est amusant parce que quand on va sur les réseaux sociaux et qu'on regarde, je pense à ce compte X Observatoire des mairies RN, donc un compte monté par des militants de gauche, qui a pour but justement de montrer, selon eux, les dérapages, les décisions polémiques, injustes, d'après eux, etc., du RN, eh bien, on a presque l'impression fait campagne en faveur de l'Assemblée nationale, puisqu'on s'aperçoit que quand... Alors, les réseaux sociaux sont évidemment un miroir grossissant, ils ne révèlent pas la réalité, mais on a l'impression qu'en fait, ces mesures condamnés, on a l'impression, par une grande partie de la classe politique et médiatique, en réalité, sont assez populaires localement.
Mais bien sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'il est organisé, je ne l'apprends à personne, une élection municipale une fois tous les 6 ans en France, qu'à partir de cette élection est élue une équipe municipale, qu'elle a un programme, et magiquement, il se trouve qu'ensuite, elle l'applique. Effectivement, Nicolas Boutin a rappelé aussi les contingences budgétaires. J'ai souvenir de Christelle Morançais, qui n'est pas au Rassemblement National, qui est la présidente Horizon des Pays de la Loire, qui a fait la même chose pour la culture dans son conseil régional. De toute façon, les collectivités territoriales comme l'État ne vont plus pouvoir tout faire, comme elles le font aujourd'hui, distribuer ici 3 000 euros, ici 2 000 euros pour faire plaisir, pour arrondir les fins de mois de tel copain ou de tel coquin, en l'occurrence. Et puis vous avez parlé d'associations politiques. Si la Ligue des Droits de l'Homme n'est pas une association politique, c'est même son objet principal, elle existe même pour ça. Donc il n'y a pas un droit imprescriptible constitutionnel. Peut-être que la gauche va demander demain à ce qu'on mette dans la Constitution qu'il est obligatoire de donner de l'argent à telle ou telle association. Mais enfin non, c'est pas acceptable. Donc il y a un maire qui est élu, il applique son programme, et voilà, tout ça est fait légalement, et point barre.
La dernière polémique, Nicolas Boutin, elle vient du Tarn, le maire de Castres, donc Florian Azéma, maire élu lors des dernières élections municipales, maire Rassemblement National, a choisi de... Alors, déprogrammer, pas déprogrammer, c'est tout l'objet de la bataille sémantique entre lui et la partie adverse qui est représentée par Alexis Michalik, metteur en scène de théâtre parisien extrêmement connu, d'ailleurs, qui a fait des succès notables, je pense notamment à la pièce Edmond qui traite de la rédaction de Cyrano de Bergerac, qui était objectivement excellente, et ce metteur en scène, donc Monsieur Michalik, avait sorti une pièce de théâtre qui s'appelle Passeport, et qu'il comptait jouer à Castres, et là, le maire de Castres, coup de théâtre, le maire de Castres déprogramme la pièce, en tout cas signifie à Monsieur Michalik qu'il ne souhaite pas le voir jouer dans son théâtre municipal. Alors évidemment, sont invoquées les prises de position d'Alexis Michalik, toujours ses pétitions anti-RN, votons contre l'extrême droite, etc. Qu'en est-il réellement, Nicolas Boutin, de cette affaire? Est-ce que réellement, on peut dire que Monsieur Azéma a censuré une pièce de théâtre?
Il n'y avait pas de contrat qui était encore signé entre les deux parties. On était sur un accord de principe avec l'ancienne municipalité. Depuis l'élection à Castres, un peu à la surprise générale, est passée au Rassemblement National. Et comme Valentin le disait tout à fait très clairement, aujourd'hui, les maires ont encore cette capacité de décider, en tout cas de composer leur programmation culturelle. Vous savez, les maires aujourd'hui ont de moins en moins de pouvoir au profit des agglos.
Mais ils ont encore celui-là,
Mais ils ont encore celui-là. Est-ce qu'on veut leur laisser ou non? Ça, c'est encore un autre débat. Mais ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait... connu au tout début du mandat des municipales, là, dès le mois de mars-avril à Vauvert, vous savez, dans le Gard avec Nicolas Maisonnet, qui est maire là-bas et qui avait déprogrammé, qui avait refusé du coup l'exposition d'un photographe proche de LFI, qui coûtait 2300 euros à la commune. Lorsque on est dans une commune endettée à plus de 19 millions d'euros, c'est une petite économie, mais c'est une économie quand même. Et qui peut ensuite aider peut-être des manifestations plus populaires dans les rues. Et à Castres, il va être intéressant de regarder ce que fera Florian Azéma. Pour l'instant, il y a une politique culturelle assez populaire, mais pas au sens populaire de la gauche, mais plutôt...
C'est-à-dire vraiment populaire, quoi, en fait.
C'est exactement ça, qui tire vers le haut. C'est-à-dire que c'est du théâtre de rue, c'est chaque année de la musique classique qui vient dans les rues de Castres. Et ça, ça datait même de l'ancienne mandature d'hiver droite avec l'ancien maire Pascal Bugy, et qui avait voulu en fait désenclaver, puisque là-bas c'est un mot à la mode, désenclaver la culture et notamment la belle culture. Ouais. Et donc il l'avait mis dans la rue. Et ça, c'est une initiative qu'on verra si elle sera poursuivie par le maire RN. Mais je pense qu'en termes de aujourd'hui de politique culturelle qu'il faut avoir, il faut retrouver je pense, des moments de lien, de partage qui tirent vers le beau, vers l'art travaillé, vers l'art qui demande des vraies compétences et un vrai travail. Et c'est là où si les mairies doivent continuer à s'investir dans le culturel, mais en faisant des choix, c'est plutôt vers ces choix-là qu'il faut venir, vers des choix un peu plus peut-être enracinés et populaires, que peut-être sur des pièces de théâtre qui peuvent être clivantes et également peuvent donner un message qu'aujourd'hui on voit un peu partout dans toutes les dans tous les cinémas aujourd'hui, le nombre de films subventionnés pour parler du parcours de migrants. Voilà.
Et c'est vrai, Étienne Darjac, lorsqu'on entend Nicolas Boutin, quand on voit ces polémiques, on a l'impression que les maires RN, mais je pense comme le sont les maires LFI, que sont par exemple Bali Bagayoko, Ali Diawara ou David Guiraud, sont particulièrement scrutés. C'est un petit peu maintenant qu'il y a un nombre significatif de maires RN, ça donne aussi un bon baromètre sur qu'est-ce que ça donnera finalement le RN au pouvoir, en quelque sorte. Il y a un côté éprouvette, galop d'essai pour tous ces élus locaux.
Oui, absolument. D'autant que dans une bonne partie des prises de guerre RN au municipal, c'est pas que des petits candidats locaux qui ont gagné leur mairie. C'est souvent des députés RN qui ont quitté l'Assemblée pour aller remporter des mairies. C'est notamment le cas. On en parlait à Carpentras avec Hervé de Lépineau,
À
qui est à
Carcassonne,
Carrivola,
à
exactement.
Vauvert, absolument.
Hervé de Lépineau, c'était pas n'importe qui au RN. Hein, c'était pas un député parmi d'autres. Donc il y a un vrai ballon d'essai, je pense, et il va de soi que on en rigolait tout à l'heure. Ce ballon d'essai, il est plutôt favorable vu de droite, en tout cas. Moi, je vous avoue que je me suis abonné au compte Observatoire des MRN et je ne résiste pas à vous lire un tweet que je trouve extraordinaire. Ça se passe à La Flèche, donc ils écrivent à La Flèche suite à la baisse des subventions de 50 000 euros décidée par le maire RN Romain Lemoigne, l'association Carrois est obligée de supprimer les concerts gratuits prévus tout l'été.
Et qu'est-ce que c'est, cette association?
Bon, peu importe, c'est pas la question. La question, c'est
bah,
que
attendez, ils font peut-être des très beaux concerts. Qu'est-ce que vous
mais
en savez?
Concerts gratuits, c'est amusant.
C'est juste que l'Observatoire des mairies RN vient d'inventer les concerts gratuits à 50 000 euros.
C'est
Et c'est quand même exceptionnel.
C'est vrai,
donc,
c'est pas mal, oui.
En fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce qui
Nicolas
est très
Poutin.
intéressant. Et là, c'est ce qu'on a vu aussi à Nice lorsque Éric Ciotti a coupé la subvention, notamment à une course à l'Ironman, si je dis pas de bêtises.
Oui, absolument.
Oui,
Il a
Iron Man,
coupé
tout
les
à fait.
subventions d'une grande course qui coûte des centaines de milliers d'euros à la ville de Nice.
Aux participants. Oui, et puis les participants payaient assez cher, donc il a dit, ben voilà, moi je dois faire un effort, et donc je vais la supprimer. Donc levée de bouclier à gauche, mais pendant que en fait les organisateurs de la course disent, ben, d'accord, c'est pas grave, on comprend, on continue, et la course, elle n'est pas disparue, elle continue
Oui, parce qu'ils
de
avaient
se...
les moyens en fait de se passer de cette subvention, tout simplement, en fait. C'est faire
Exactement,
confiance au privé, c'est marrant,
mais
ça.
c'est dingue, c'est...
Il y a plusieurs festivals comme ça qui fonctionnent justement sans. Alors peut-être qu'ils n'ont pas la même prétention, les mêmes. Comment dire, le brillent peut-être moins que d'autres, mais qui sont des festivals de qualité, qui a du monde. Et ce sont donc les gens qui payent leur place pour rentrer dans ce festival-là. Et ce n'est pas toute la population qui est obligée de payer les places de tout le monde pour des choses qui ne concernent qu'une partie
Exactement.
de la population. Vous voyez, lorsqu'on fait un festival de jazz, ben, si on n'a que 300 personnes qui vont à ce festival, je ne vois pas pourquoi les 30 000 administrés voteraient, enfin, paieraient la place de ces 300 personnes.
Merci
Et puis,
beaucoup.
en fait,
Oui,
pardon,
Nicolas Boutin, je vous en prie, je laisse conclure.
c'est un dernier point parce que c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que donc, vous avez parlé de l'Observatoire des mairies RN. On sait qu'à Toulouse aussi, il y a des subventions qui vont être coupées. On n'a pas, qui là, pour le coup, c'est un maire centriste
C'est le
qui a
maire
pu même
sortant, oui.
faire fermer un théâtre, mais ça n'en fait pas une polémique nationale. Lorsque des maires s'opposent à la venue du Calon français, là encore, il n'y a pas la polémique nationale, en tout cas, on n'essentialise pas le parti politique des maires. Donc, en tout cas, voilà, c'est aussi l'occasion quand même de rentrer en jambes dans cette campagne présidentielle, et ça montre un petit peu l'ambiance dans laquelle elle va se dérouler.
C'est vrai que c'est une spécificité française, l'élection présidentielle est dans un an et on a l'impression qu'elle a démarré déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et paradoxalement, alors quand on discute avec des confrères, les sujets journalistiques sur l'élection présidentielle commencent à intéresser Moi, j'étais vraiment parti du pari que les Français n'en pouvaient plus, qu'il y avait bien un sujet dont ils ne pouvaient plus entendre parler, c'était de la politique. Mais là, on voit quand même que la France est un peuple, est un pays essentiellement politique, puisque on voit que les sujets politiques fonctionnent toujours et l'élection présidentielle reste quand même un moment d'enjeu, un moment fort dans l'actualité du pays. Valentin Gore, pour conclure la séquence là-dessus.
Non, mais c'est très intéressant, en effet, cette affaire des villes et reines, ça m'amuse, parce que la gauche reprend toujours plus ou moins les mêmes méthodes. On voit qu'ils essaient de refaire ce qu'ils avaient réussi à faire dans les années 90, en attaquant les trois pauvres mairies qu'à l'époque le Front National avait réussi à décrocher, à commencer par Toulon, avec Jean-Marie Le Chevalier. C'est vrai qu'il y avait eu quand même beaucoup de manquements. Ils n'avaient pas non plus été aidés par, objectivement, tout l'appareil local du préfet aux juges qui s'étaient quand même acharnés contre eux aussi. Mmh. Et ça avait desservi beaucoup le Front National. Hein. Ça avait été des expériences assez désastreuses. On voit que maintenant, bah, ça ne prend plus, parce qu'évidemment, le parti est professionnalisé. Maintenant, il y a des équipes qui savent gérer une ville et qui ne tombent plus dans tous les pièges qu'on leur tend à chaque fois. Mais ça m'amuse, parce que Libération et Consort ont gardé les méthodes d'antan et n'ont pas bougé d'un iota.
Ouais. Donc, est-ce que lorsqu'on...
Oui, en espérant, je termine pas...
Nicolas Boutin, ouais, je vous en prie.
Non, mais en espérant toujours que ça soit désormais des brebis galeuses, que ça soit désormais des députés, certes anciens députés, mais incompétents, et en fait, la vraie réponse, elle sera du coup dans 6 ou 7 ans, mais on a déjà eu une première en 2026, c'est que la plupart des maires RN, désormais, se font réélire et restent au moins 2 mandats, et pour certains, se font réélire dès le premier tour, et donc... Finalement, les polémiques peuvent s'enchaîner. Ça ouais. Donne une crédibilité malgré tout au Rassemblement National lorsque il y a des résultats.
Dernière question avant de vous libérer, Nicolas Boutin, très rapidement. Est-ce que les maires RN à qui vous parlez, parce qu'on sait que vous êtes très souvent sur le terrain, donc vous les avez très souvent au téléphone ou en face de vous, est-ce qu'ils ont conscience de la responsabilité qui pèse sur eux? Bon, déjà, parce que faire vivre une ville, c'est quand même une sacrée responsabilité, mais surtout que leurs actions locales vont être corrélées très rapidement à l'actualité nationale, potentiellement pourraient parasiter la campagne présidentielle de leur candidat lorsque celui-ci sera connu. Est-ce que il y a cette dimension-là qui est prégnante, on va dire, chez eux?
Oui, alors, tout à fait, là, ils se rendent compte notamment, et c'est pour rebondir un petit peu sur ce que je disais avant, c'est que entre députés à devoir voter, certes, mais dans un grand groupe, en tout cas noyé dans un ensemble de 567 parlementaires, c'est pas la même chose que de devoir cette fois prendre des responsabilités et de gérer un exécutif.
Bien sûr.
Et ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. De ce que l'on sait un petit peu, c'est qu'il y a quand même certaines liberté, en tout cas, ou un soutien de la part du siège national sur ce genre de petites polémiques. Maintenant, ils savent qu'aucun cadeau ne leur seront fait et qu'ils ont, pas le choix que d'être exemplaires. Maintenant, est-ce qu'ils tiendront cet exemplarité? C'est à eux aujourd'hui de faire leurs preuves pour la suite.
Qui vivra verra. Merci Nicolas Boutin d'avoir été avec nous, chef de rubrique VA Région, avec qui nous avons évoqué les premières mesures polémiques des mairies RN, ou comment des petites décisions locales créer des polémiques nationales. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas. Restez avec nous, chers auditeurs, puisque petit message de votre radio, toute petite pause musicale, et nous revenons vers vous avec la journaliste et auteure Christine Goguet, qui publie aux éditions du Rocher « Les grands hommes et le diable ». A tout de suite.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris, et vous verrez, vous vous sentirez mieux.